Europe 1 Midi.
Place au titre de l'actualité, présenté par Jean-Michel Deuze et Patrick Roger.
Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Patrick, bonjour à tous.
Et cette nouvelle évasion donc à la prison de Sequedin dans le Nord, près de Lille.
Trois mois après Redouane Faïd, un autre détenu s'est échappé, cette fois à l'extérieur de l'établissement. Il était en transfert dans une voiture de police. Visiblement, l'administration pénitentiaire n'y est pour rien. En revanche, la question de la responsabilité des policiers est posée. Quant aux détenus, ils courent toujours. Le choc de simplification va se concrétiser. Les mesures promises par François Hollande sont étudiées aujourd'hui. Cela concerne les entreprises et les particuliers. La carte d'identité sera valable 15 ans et les titres restaurants vont disparaître au profit des cartes à puce. 3 milliards d'économies en perspective. Le gouvernement va raboter de nouvelles niches fiscales, notamment les aides au gasoil non routier, celui utilisé par les agriculteurs.
Les vacances encadrées pour les ministres, c'est une révélation Europe 1. Ils devront pouvoir rentrer rapidement à Paris. Ils devront surtout. Et surtout, ils ne devront pas rester inactifs. Obligation de se montrer.
Ouverture du procès du naufrage du Concordia, c'est le procès du commandant du bateau, Francesco Schettino. Les naufragés français boycottent, ils estiment que les vrais responsables ne sont pas là. Un député socialiste veut permettre aux homosexuels de pouvoir donner son sang, une règle établie en 1984 les en empêche. Le Tour de France contre la montre, 32 km entre Embrun et Chorges dans les Hautes-Alpes. Contador espère refaire une partie de son retard sur Frome.
Merci Jean-Michel, tous ces titres seront développés à midi et demi tout à l'heure, juste avant 13h également votre nouveau rendez-vous, la nouvelle chronique, vous allez faire une rencontre, tout l'été des rencontres de personnalités locales grâce aux correspondants d'Europe 1 et avec François Coulon tout à l'heure nous irons dans l'Ouest pour la rencontre d'un médecin d'un certain âge, vais-je dire. Christine Peña, temps lourd et orageux aujourd'hui,
exactement.
Attention.
Exactement, oui, ce matin nous avons eu déjà des impacts orageux sur l'Est du Massif Central, dans le Sud-Ouest également, d'autres orages vont se développer cet après-midi. Midi. Dans un premier temps, ce sont les reliefs qui seront concernés. Et puis, plus localement, nous aurons en plaine des foyers orageux qui vont se développer. Alors, c'est des plaines du sud-ouest jusqu'aux Alpes, hein, même en Auvergne également. Ces orages pourront être violents. Attention, on attend même de la grêle, mais sur les reliefs. Alors là, les Pyrénées, l'Auvergne et les Alpes. Et puis, plus au nord, nous sommes un peu plus tranquilles. On a une zone qui va du sud de Bretagne jusqu'aux frontières allemandes. L'anticyclone nous protège sur la région parisienne, les Pays de la Loire, les régions centres. Nous sommes plus au calme, même si quelques cumulus circulent. Ils ne devrait pas donner grand-chose, pardon. Tout au plus, quelques gouttes en région parisienne ou en fin de journée. Quelques averses sont possibles également sur les Vosges. Mais globalement, voilà, ça reste lourd, mais au calme dans le nord.
Oui, les orages les plus percutants seront, si je puis dire, pour demain, après-demain.
Alors non, c'est vraiment pour cet après-midi. Demain, ça devrait, cette zone orageuse, se décaler un petit peu vers l'est. Mais on aura encore sur les Pyrénées, dans le sud-ouest, quelques orages en Auvergne également et sur les Alpes. Et puis, ça va s'atténuer un petit peu pour disparaître pratiquement totalement dimanche. Et là, en revanche, ces orages ne font pas baisser la température. On reste dans des températures chaudes et on devrait avoir encore plus chaud à partir de dimanche.
À partir de dimanche, la semaine prochaine encore.
Oui, voilà, soleil et grosse chaleur.
Les vénards qui vont partir en vacances. Hein.
C'est ça.
Voilà, c'est ça. Nous verrons tout à l'heure donc avec vous toutes ces prévisions, Christine Peña. Et puis également à 13h, la météo des plages avec une eau qui ne cesse de monter, effectivement.
Oui, hein, tout à fait, je confirme.
Oui. À vous confirmer. Elle va se baigner de temps en temps.
Europe 1 Midi. Patrick Roger.
Et c'est la deuxième partie d'Europe 1 Midi avec cette question. Aujourd'hui, la voiture en ville, un gouffre financier, Patrick.
Oui, ça chauffe pour la voiture, effectivement. Nous allons en parler avec nos invités.
Ingrid Attal, avocate spécialiste du droit routier, présidente de la commission juridique à 40 millions d'automobiles. Denis Baupin, député ELV de Paris, vice-président de l'Assemblée nationale. Guy Lebras, directeur général du groupement des autorités responsables de transport. Et puis Simon Midal, porte-parole en Ile-de-France de l'Automobile Club Association.
Alors, nous en parlons aujourd'hui parce qu'il y a notamment ce projet de forfait du stationnement dans les grandes villes. Et puis, il y a ce débat récurrent sur la place de la voiture en ville. Alors, c'est 40 millions d'automobilistes. Hein, pour Ingrid Attal, effectivement, on a parlé de 40 millions d'automobiles tout à l'heure. Denis Baupin, cette idée de Roland Ries, hein, donc à Strasbourg, enfin, il est à l'origine du projet avec les gens du GART, hein, qui ont travaillé et étudié donc tout ce projet, d'une forfaitisation du stationnement. Vous êtes favorable, vous? Ou pas, hein.
Oui, très, très favorable, comme tous les élus des grandes villes d'ailleurs. Oui.
Les élus, pas forcément les habitants et les automobilistes.
Les automobilistes honnêtes n'ont rien à craindre.
Oui.
Non, c'est-à-dire que tous ceux qui payent leur stationnement normalement, pour eux, ça ne va absolument rien changer. Hein, il faut qu'on rassure tout le monde sur le fait qu'ici, il ne s'agit que des fraudeurs. Hein, et donc, il s'agit de rendre le système plus efficace et plus civique.
Oui.
Bon, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut bien constater à Paris, par exemple, quand vous demandez à la préfecture de police, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez une idée du nombre d'automobilistes qui fraudent au stationnement payant.
Vous allez nous dire
95%.
95%.
Donc imaginez si dans les supérettes, par exemple, 95% des gens qui sortent n'ont pas payé. On parle de Paris. Hein. Ouais. Et donc si vous avez un incivisme aussi important, évidemment, vous avez un problème. Hein. Votre système ne fonctionne pas. Ouais. Et qui sont les principales victimes?
Ouais.
Les automobilistes honnêtes, ceux qui veulent stationner et qui finalement voient les places de stationnement dans la ville occupées par des gens qui restent là pendant des heures et des heures sans payer leur stationnement et qui savent que la probabilité de se prendre un PV est assez faible. Et que le montant du PV
est assez faible, c'est quand même assez étonnant. On voit de nombreuses rondes
Globalement, quand vous avez un PV dont le montant vous coûte moins cher que 4 heures de stationnement, si vous n'êtes pas contrôlé toutes les 4 heures, vous faites un calcul rapide en vous disant que finalement, en ne payant pas, c'est plus simple que de payer et ça vous coûte moins cher. Un système incivique, ce n'est pas bon pour la collectivité.
C'est peut-être aussi parce que la place et le prix du stationnement a beaucoup augmenté que le prix des PV n'a pas, lui, augmenté de la même manière. Quoi,
le prix du stationnement a peu augmenté. Hein, depuis 2001, il est relativement stable. Vous parlez du PV. Non, mais on parle du prix du stationnement.
Du prix du stationnement
il faut qu'on soit très clair vis-à-vis des auditeurs. Il y a une grosse différence entre le prix du stationnement, ce qu'on paye quand on est honnête et qu'on paye son stationnement régulièrement, et puis le PV, qui est la sanction qu'on a si on n'a pas payé. Et donc là, le débat aujourd'hui porte sur le montant de la sanction et sur le fait d'inciter les gens à être civiques.
Oui. Guy Lebras, vous vouliez préciser.
Oui, moi je voudrais m'adresser aux auditeurs d'Europe 1 qui sont à l'heure actuelle dans leur voiture.
Oui.
Eh bien, il faut savoir qu'il y en a 20% qui sont en train de chercher une place de stationnement.
Oui. Donc, dans toute la France, hein, pas uniquement Paris. Hein,
principalement dans les grandes villes. Donc je m'adresse à tous les auditeurs qui sont là en train de tourner dans leur voiture et qui sont en train de chercher une place de stationnement. Eh bien, il faut savoir qu'avec notre mesure, eh bien, ils auraient déjà trouvé depuis longtemps une place de stationnement parce que cette mesure va favoriser la rotation des véhicules. Et bien évidemment, et en plus avec ce système-là, ils auront participé au financement des transports publics parce que c'est une priorité de cette mesure, c'est une nouveauté. C'est le fléchage effectivement de la redevance de poste de stationnement, puisqu'on ne parle plus d'amende, c'est le fléchage de cette redevance vers les transports publics. Donc c'est une mesure gagnant-gagnant pour absolument tout le monde, y compris les automobilistes.
Ingrid Attal.
Alors, je crois que je ne peux pas vous laisser dire que rien va changer, que les automobilistes vont être gagnants dans cette affaire. Il faut quand même rappeler que, avec cette modification, les maires auront la possibilité de fixer librement le prix du stationnement et librement le forfait.
Librement
le forfait, ce que vous appelez la redevance journalière et donc l'amende. Puisqu'aujourd'hui, l'ensemble du territoire, lorsque vous commettez une infraction au stationnement, vous avez un PV à 17 euros qui a bien évidemment déjà beaucoup augmenté puisqu'il était. On n'est pas pour la fraude, on est pour d'autres solutions, bien évidemment. Et aujourd'hui, le forfait journalier, il va être fixé librement d'une commune à l'autre. Donc on a certaines.
Il n'est pas fixé librement, c'est encadré par la loi. Il y a un montant maximum qui est indiqué dans le texte de loi. Le malheur, c'est que les gens qui parlent de cette mesure, en général, n'ont pas lu l'article qui a été voté à l'unanimité par les sénateurs.
Alors, le forfait, il sera peut-être plafonné, libre est la question pour l'instant, mais simplement aujourd'hui, il sera largement au-dessus des 35 euros. Donc, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que cette mesure va être indolore, ou en tout cas, sera peut-être entre 17 et 35 euros, mais elle ne sera pas indolore pour les automobilistes.
Il y a une moyenne qui a été calculée, parce qu'il faut quand même savoir une chose, c'est que cette mesure est déjà mise en œuvre avec succès dans 6 autres pays européens.
Oui.
Et ça satisfait tout le monde.
C'est-à-dire quel pays?
Alors, vous avez la mesure en Espagne, Madrid.
Alors, c'est pas tout à fait ça, en fait, en Espagne. Parce que, vous pouvez, ce n'est pas un forfait journalier de la même manière. Vous pouvez déduire.
Le système est un tout petit peu différent.
Roland Ries nous disait, effectivement, hier, ça existe en Espagne. On a vérifié. C'est pas tout à fait le même système.
Alors, c'est un système un petit peu différent, mais il est dépénalisé, il est décentralisé. Ouais. En Belgique, j'ai appris d'ailleurs moi-même que le système de dépénalisation permet même, on peut même retrancher les redevances de ses impôts. Donc c'est quand même, il y a des systèmes qui sont extrêmement favorables et qui fonctionnent très bien. Donc on ne voit pas pourquoi en France, ça serait complètement différent.
Simon Midal.
Bon, je pense, l'Automobile Club Association, je pense qu'on prend le problème à l'envers. Il y a d'un côté, d'ailleurs c'est simple, vous avez intitulé un gouffre financier.
Point d'interrogation.
Mais le gouffre, il est pour qui? Et le gouffre, il est sûrement pas pour les communes, il est sûrement pas pour non plus un certain nombre d'institutions et d'institutionnels qui vont récupérer ces fonds. Ce qui est certain, c'est que moi je m'élève et nous nous élevons en faux d'après ce calcul que vous donnez des fraudeurs, des automobilistes à Paris.
Nous avons la préfecture de police, hein. C'est pas la mienne, c'est
non, 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 ça, vous, tout dépend.
Pas, oui.
Non, non, mais on est bien d'accord que qui, quel que soit, que ce soit la direction régionale, que ce soit la préfecture de police, que ce soit la ville de Paris, que ce soit, il y est intéressant de savoir comment ce calcul est fait. Et quand on se penche sur la façon dont le calcul est fait, ben, nous sommes loin de ce chiffre de 95% de fraudeurs. Les Parisiens, on en rediscutera si vous voulez,
ah bah,
mais
je pense.
Oui, oui, on est beaucoup moins
chiffre.
Que ça. On est beaucoup moins, on est entre 40 et 45%. Ce qui est déjà énorme, je le reconnais.
Donc,
mais
voilà.
ce qui n'empêche qu'on n'est pas.
C'est déjà beaucoup trop, vous êtes d'accord.
Nous nous élevons et je m'élève en faux.
Non, mais 95%, c'est vrai que c'est fort.
C'est oui, non, mais
c'est
énorme.
Le chiffre de la police, vous savez.
Non, non, non. Non,
vous savez,
non,
la police,
non.
En général, ils minimisent les chiffres quand c'est une manifestation, donc peut-être que là.
Voilà. Selon la police, ça fait ça. Et selon les associations, ça fait ça.
Au niveau national, c'est
65%.
Pas tous en même temps. Simon Vidal, poursuivez.
Non, je disais, selon la police, on arrive à ce chiffre. Selon les associations, on arrive à un autre. On est devant les manifestations et le comptage. Bon, ceci étant.
La moitié de fraudeurs, c'est quand même pas quelque chose que vous pouvez soutenir. Quand même.
Mais je ne soutiens pas, mais ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi il y a des fraudeurs. Alors, moi, je voudrais aller sur le fond du problème. Le fond du problème, c'est qu'il y a des moyens de substitution que nous prônons depuis longtemps, que sont effectivement les transports en commun, le Vélib, Autolib, la participation, tout ça existe aujourd'hui.
Oui, pas partout, attention.
Je parle à Paris.
Oui, vous parlez à Paris. C'est vrai qu'on parle, on a un débat quand même national, et à Paris ça existe, mais à Marseille, on en parlait encore il y a quelques jours, les transports en commun, c'est pas si évident. Hein.
Donc, dans la plupart des grandes villes, ça fonctionne quand même plutôt pas mal.
Non, le covoiturage fonctionne bien dans les grandes villes aussi. Le covoiturage. Bon, là, il y a effectivement, dans les grandes villes, un problème, à force de réduire, parce que la volonté de la mairie de Paris, on la connaît, c'est de réduire au maximum le nombre de voitures dans les villes, et dont à Paris particulièrement.
Dans toutes les villes
du monde.
C'est clair.
Mais à Paris particulièrement, c'est clair.
De pollution de l'air,
40% de moins de stationnement autorisé payant dans les deux années précédentes.
40%?
Vous sortez 40%. Ah bah, c'est des chiffres qui sont sortis de la ville.
De stationnement payant en moins.
Vous avez eu Autolib. Vous avez eu Autolib.
Places de stationnement à Paris. Donc vous dites qu'il y aurait eu donc la suppression
en
de
40%
de 60 000 places
en 5
supprimées
ans,
à Paris. C'est vos chiffres.
En 5 ans.
Vous affirmez cela à la radio, 60 000 places supprimées en 5 ans.
J'ai pas dit 60 000. J'ai dit 40%. Vous avez combien? 150 000?
Vous dites 150 000?
Non, on va pas faire un débat de chiffres.
C'est vous qui lancez les chiffres.
Absolument.
On essaiera de vérifier.
On verra. Totalement erroné.
On va peut-être prendre un peu de hauteur par rapport, en fait.
Mais ce que je voudrais, moi, c'est parler des transports en commun qui sont effectivement le palliatif à cet automobiliste qui cherche une place et qui prend son automobile. Pourquoi ? Alors, aujourd'hui, on est arrivé, parce que vous êtes arrivé à réduire la circulation sur Paris, à l'exception des périphériques, mais ça, c'est un autre débat. Mais nous sommes arrivés, effectivement, tous ensemble, à réduire un petit peu le nombre d'automobilistes. Mais nous ne sommes pas arrivés, en revanche, à avoir un système de transport en commun qui, lui, soit satisfaisant. Quand vous voyez ce qui se passe dans le métro, dans les bus maintenant, c'est vraiment affolant. Je puis vous dire, ce matin même, il y avait à Gare Saint-Lazare, en sortant, à la, quelle que soit la ligne, vous avez des personnes de la RATP qui sont là pour bloquer les portes, pour empêcher les gens de monter avant qu'ils descendent. On se croirait au Japon.
Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de monde dans les rames.
Il n'y a plus de système qu'il faille
investir dans les transports publics. C'est une notoriété publique. Ouais. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les usagers ne payent pas plus de 20% avec leur ticket du coût global du système de transport. Et pourtant, on a un des très bons systèmes de transport public au monde. Et il est évident que cette mesure qui va, et c'est la nouveauté, je le répète, être fléchée vers l'amélioration des transports publics, est une mesure qui sera extrêmement positive pour les transports publics et pour les automobilistes.
Alors, je voudrais soutenir quand même le plaidoyer de l'Automobile Club pour renforcer les moyens pour les transports collectifs. Je pense qu'on est parfaitement d'accord et que le projet du Premier ministre du Nouveau Grand Paris, les 35 milliards qui vont être consacrés pour développer le réseau de transports collectifs en petite couronne et l'amélioration des transports collectif à Paris est en effet une nécessité. Je suis heureux que l'Automobile Club le soutienne.
Oui. Ingrid Attal, revenons quand même sur ce prix de forfaitisation. J'imagine beaucoup d'auditeurs qui se disent on va payer entre 15 et 30 euros par jour pour pouvoir se stationner dans certaines villes.
Non, c'est faux. C'est pas le prix du stationnement qui va changer, c'est le prix de l'amende.
C'est le prix
de la redevance.
Non, pas de l'amende. Ingrid Attal.
C'est le prix de la redevance si vous n'êtes pas acquitté de votre redevance horaire, en fait, qui va changer.
Absolument.
Mais moi, la question que j'aimerais quand même poser à M. Baupin, à M. Lebras, c'est sur les problèmes de contestation. Parce qu'à partir du moment où on n'est plus dans la l'amende, donc on n'est plus sur le juge judiciaire, on est sur le juge administratif.
Exact.
Et la question que je me pose aujourd'hui, donc pour tous les automobilistes qui vont être quand même concernés par les problèmes de contestation donc de ces redevances, comment ça va se passer? Parce que en pratique, moi au quotidien, lorsque j'interviens en droit administratif, j'interviens en adressant d'abord un recours gracieux. Donc là, ça va être en l'occurrence dans les mairies. Est-ce que les mairies aujourd'hui sont armées et ont les équipes nécessaires pour répondre à tous ces courriers? Est-ce qu'elles ont les compétences pour répondre à tous ces courriers? Après, il y a le problème aussi de la barrière financière lorsque l'on conteste.
Parlez bien dans le micro.
Lorsque l'on veut contester devant le tribunal administratif, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui, pour contester une amende, vous avez pas de barrière financière pour le stationnement. Vous avez aujourd'hui en droit administratif un timbre fiscal de 35 euros. Et derrière, ça va augmenter considérablement et encombrer considérablement les tribunaux administratifs. Ils sont déjà quand même bien encombrés de contestations et de contentieux.
Bon, attendez, avant d'arriver aux contestations, il y a quand même le fait, hein, le prix d'une voiture effectivement en ville.
Alors, je vais quand même répondre à Madame Attal. Bon, c'est certain qu'il va y avoir moins de travail pour les avocats parce qu'effectivement, il y aura beaucoup moins de contestations parce que le système sera beaucoup plus clair.
Alors, est-ce qu'on peut rappeler d'ailleurs un peu brièvement à ce stade du débat le système, comment il va fonctionner?
Alors il va fonctionner de la manière la plus simple possible, c'est-à-dire que quand vous ne mettrez pas votre ticket ou quand vous dépasserez votre temps de stationnement, vous serez censé avoir fait le choix du forfait de stationnement. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans l'illégalité, vous n'êtes plus dans fraude, vous avez fait simplement un choix forfaitaire. Alors il y a une très grande différence.
Un choix
avec...
forfaitaire qui ira de 17, alors, de 15 à 30
même
euros
moins,
selon les villes.
Il y a des villes où ça peut baisser. Moi, le maire d'Alès m'a dit, chez nous, ça sera peut-être 8 euros le forfait de poste de stationnement.
Parce que le prix à l'heure est beaucoup moins cher.
Exactement, parce que en vérité, l'inégalité...
On n'est pas à Strasbourg, on n'est pas à Marseille,
on
n'est pas à Paris.
Voilà, en vérité, l'inégalité, elle est actuelle. L'inégalité des citoyens, elle est actuelle. C'est qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus pénalisé quand on est à Alès que quand on est à Paris ou à Strasbourg.
Donc, pourquoi?
En fait, parce que tout simplement, la différence entre l'heure de stationnement et l'amende de 17 euros est beaucoup plus faible à Paris qu'elle ne l'est à Alès. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une inégalité des citoyens par rapport à ce problème-là. Alors, le système est extrêmement simple. Vous aurez fait donc le choix du forfait de poste stationnement. Si vous avez déjà payé vos 2 heures, par exemple, eh ben, on défalquera ce que vous avez déjà payé, ce qui est déjà une grande différence avec le système actuel. Parce que vous dépassez de 5 minutes à l'heure actuelle, vous payez 17 euros. Là, on vous défalquera ce que vous avez déjà payé et vous pourrez garer votre voiture plus longtemps. Donc, c'est un système qui sera effectivement à la fois incitatif et c'est pour ça qu'il y aura beaucoup moins de contestations. Alors, c'est vrai, vous avez tout à fait raison, madame, les contestations se feront devant le tribunal administratif puisqu'on passe d'une taxe à une redevance. Le tribunal administratif, il y a une mission d'inspecteurs généraux très intéressante qui a été nommée par le Premier ministre et qui vient de rendre son rapport. Le rapport n'est pas encore diffusé, mais nous en avons eu quand même la substantifique moelle. Et ce que l'on peut dire, c'est que dans ce rapport, il y a une proposition très concrète qui est faite, c'est que les redevances de poste de stationnement continuent à être traitées par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, l'ANTAI, à Rennes, et qu'il y ait une chambre spécifique du tribunal administratif de Rennes qui soit chargée de gérer le contentieux. Ensuite, il y a l'introduction que nous allons très probablement proposer aux sénateurs en deuxième lecture de ce que l'on appelle le règlement amiable préalable obligatoire qui obligera les collectivités ça n'est pas encore passé, mais nous allons l'introduire, nous allons proposer l'introduction. Ce rapport obligera les collectivités à faire un règlement amiable préalablement quand il y aura une contestation. Ensuite, il y aura des systèmes électroniques et informatiques qui garantiront que effectivement la personne a bien effectivement été vue en n'ayant pas payé. Il y aura beaucoup moins de contestations possibles. Quant aux 35 euros de timbre.
Oui. Attendez. On va marquer une petite pause, hein, parce que évidemment nous avons un petit peu dépassé le temps et nous y reviendrons dans un instant avec toutes vos explications. On essaiera de ne pas être non plus trop technique, hein, pour ne pas perdre nos auditeurs en route, si je puis dire. Sur la route. Allez, dans un instant, nous poursuivons notre débat. La ville est-elle trop chère pour les voitures ou les voitures sont-elles trop chères en ville?
Europe 1 midi, 11h30, 13h. Patrick Roger.
Deuxième partie d'Europe 1 midi avec cette question. Aujourd'hui, la voiture en ville est-elle un gouffre financier? On en parle avec vous, Patrick Roger, vos invités. Grind Attal, avocate spécialiste du droit routier, présidente de la commission juridique à 40 millions d'automobilistes. Denis Baupin, député ELV de Paris, vice-président de l'Assemblée nationale. Guy Lebras, directeur général du groupement des autorités responsables de transport. Et puis Simon Lidal, porte-parole en Ile-de-France de l'Automobile Club Association.
Avec des réactions qui nous parviennent, Céline.
Celle de François par mail, hein, europe1.fr, qui nous dit « Je refuse le terme d'automobiliste malhonnête. Le stationnement payant est un véritable racket et il est légitime de chercher à y échapper. La ville a supprimé la plupart des places parisiennes, créant de ce fait une pénurie insupportable et la condition favorable à une verbalisation de masse. »
Denis Baupin, vrai ou pas ça ?
Qu'il faille payer le stationnement, c'est un droit aujourd'hui reconnu depuis des décennies sur le fait que la privatisation de l'espace public par l'automobiliste pendant un temps donné pour stationner son véhicule est payée. Voilà, c'est quelque chose qui fait partie.
Et ça, c'est vrai.
Et donc, c'est légitime. Excusez-moi, mais cet espace qui va être occupé par un automobiliste qui va stationner n'est pas utilisable par les autres, n'est pas utilisable par les autres moyens de déplacement.
Et ça, c'est vrai dans toutes les villes, plus en plus, quoi. Petite ville, grande ville,
dans le monde entier.
Après que les gens, et c'est la question que vous posiez tout à l'heure. Les gens considèrent que ça leur coûte trop cher. Et ça, moi, je partage complètement. C'est-à-dire aujourd'hui, l'automobiliste est une véritable vache à lait de la part des constructeurs automobiles. Les constructeurs automobiles leur construisent des véhicules bien trop chers. Bien trop chers qui sont conçus pour emmener une famille en vacances, alors que dans 99% des cas, il y a une seule personne à l'intérieur. Imaginez si demain, on remplaçait ces voitures par des Smart ou des Twizy, des petites voitures, peut-être un petit peu plus confortables qu'elles le sont, mais vous auriez tout d'un coup résolu vos problèmes de stationnement. Si vous remplacez n'importe quel véhicule par une Smart, vous avez deux fois plus de places de stationnement du jour au lendemain. Et donc, vous avez une capacité à payer beaucoup moins cher, évidemment, parce que votre voiture consomme beaucoup moins. Et aujourd'hui, avec le prix du pétrole qui augmente, évidemment que les consommateurs trouvent que ça coûte extrêmement cher. Vous avez des véhicules plus petits, vous avez beaucoup moins d'embouteillages, beaucoup moins d'encombrement dans la ville. Donc, il est vraiment très important. Je suis chargé d'un rapport pour le Parlement sur la voiture écologique. Ce qu'on voit à travers le monde aujourd'hui, qui est en train de se développer un peu partout, et donc sur lequel les constructeurs français sont plutôt en retard, c'est tout ce qui concerne donc ces petites voitures sobres, de petite taille, très adaptées à la ville, bien plus adaptées que les 4x4 et autres véhicules que nos constructeurs ont fabriqués. Et finalement, les gens se retrouvent coincés avec énormément de puissance sous la pédale et extrêmement frustrés de ne pas pouvoir l'utiliser.
Denis Baupin, est-ce qu'on peut envisager d'ailleurs pour des petites voitures, par rapport aux grosses voitures, grosses cylindrées, des places moins chères, alors puisqu'elles prennent moins de place sur les parkings?
Écoutez, c'est les gens en route. J'ai déposé un amendement à la loi qui est débattue cette semaine à l'Assemblée nationale, justement pour proposer que les villes puissent fixer un tarif moitié moins important pour les petites voitures et les voitures sobres.
C'est
quelque chose
Smart deux fois moins cher qu'un gros 4x4. Quoi.
Exactement, parce qu'elle occupe deux fois moins de place.
Oui, Ingrid Attal.
Non, mais on peut pas partir de ce principe en se disant, parce que j'ai une Smart, tout le monde ne peut pas rouler en Smart matériellement.
Mais
ceux qui peuvent, très bien. Mais il y a pas la majorité des automobilistes français ne roulent pas en Smart, Monsieur Baupin.
Venez avec moi dans
ils ont des voitures familiales.
Venez voir combien il y a de personnes sur les. On va sur les Champs-Élysées ensemble. On regarde combien il y a de personnes par véhicule. Et vous allez me dire si les véhicules qui sont construits aujourd'hui sont adaptés aux besoins des gens. Les gens dépensent un argent fou pour mettre du pétrole dans leur voiture, pour transporter des tonnes de ferraille qui ne leur servent à rien. On est dans un monde de fou. On est au 21e siècle.
L'automobiliste est donc quelqu'un d'irresponsable, de fou.
Non, c'est les constructeurs qui les mettent dans cette situation. Les constructeurs qui ne leur offrent.
C'est comme si vous-même qui peut acheter
un téléphone portable, on vous disait, il y a un seul modèle qui existe.
Non, mais monsieur Baupin, c'est vous-même qui dites qu'on peut acheter une Smart. Donc c'est donc l'automobiliste que vous considérez est donc irresponsable parce qu'il prend sa grosse voiture au lieu de racheter une Smart.
On n'a pas organisé le système pour que les gens puissent avoir une forme d'utilisation différente des véhicules selon leurs usages. Le système qui consiste à avoir la voiture à tout faire, qui est la voiture que vous allez utiliser tous les jours pour aller travailler, et la même que vous allez prendre pour aller faire vos courses, qui est la même que celle que vous allez utiliser pour aller en vacances, c'est un système qui est dépassé, ou en tout cas qui va être dépassé dans les années à venir.
Ça existe quand même dans beaucoup de foyers où il y a parfois deux voitures. On sait qu'il y a une plus grosse et une plus petite.
On sait très bien que ça a un coût et que la majorité des Français peuvent pas forcément avoir deux véhicules. Un véhicule pour aller en agglomération, puis un véhicule pour aller faire ses courses.
Ils n'ont pas besoin d'avoir une deuxième voiture. Il suffit d'utiliser les voitures servicielles, par exemple l'Autolib à Paris ou d'autres.
Sauf que lorsque l'on se présente.
Il y en a beaucoup dans les grandes villes.
Oui, mais il n'y en a pas encore beaucoup de développés.
Ça va se développer.
Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas.
Nous militons au groupement des autorités responsables de transport. Nous militons pour ce que l'on appelle la mobilité durable, dans laquelle vous avez tout un tas d'outils qui sont mis à disposition du citoyen, le transport public, l'Autolib, le Vélib, vous avez aussi bien évidemment l'usage
combien de
la voiture,
puisque vous êtes
avec
Guy Lebrun,
le stationnement payant.
Combien de villes en France ont des autolibs?
Alors, il y en a l'autopartage, il y en a quasiment dans toutes les grandes villes, mais c'est pas forcément.
L'autopartage, c'est pas tout à fait la même chose.
Si, c'est la même chose, l'autopartage.
Expliquez pour les auditeurs.
Alors, Tout simplement, bah, c'est une auto qui ne vous appartient pas, ouais. mais que vous louez pour une durée limitée pour vos besoins spécifiques en ville. Donc, de l'autopartage...
Au quotidien, donc pour des petits
au
déplacements.
Au quotidien, pour des petits déplacements. Ce sont des voitures qui sont adaptées, des voitures électriques adaptées. Alors, il y a des systèmes comme Autolib, il n'y en a pas énormément encore non. en France, mais ça se développe. Bordeaux y pense, Lyon y pense. Mais par contre, vous avez des initiatives autour de l'autopartage qui sont des initiatives privées qui existent dans la quasi-totalité des grandes agglomérations françaises. Donc c'est quelque chose qui se développe.
Qui se développe, c'est vrai. Mais qui n'est pas encore à grande échelle en fait aujourd'hui.
Il faut quand même... mais qui est vraiment l'avenir. Hein. Ouais, alors, ouais. Regardez ce qui se passe. Le MIT travaille beaucoup là-dessus aux États-Unis sur ce que peut être demain la mobilité automobile avec des nouveaux véhicules beaucoup plus légers, des véhicules qui seront à base d'énergie renouvelable, qui seront interconnectés.
Qui coûteront moins cher, quoi, donc bien sûr.
Qui coûteront moins cher à l'usager.
Et surtout,
qui
coûteront
moins l'espace. Et donc, qui seront partagés. Et donc, on va changer de modèle par rapport à l'automobile. Il faut bien comprendre ça. Nous sommes dans une phase où quelque part on va passer de la machine à écrire à l'ordinateur. C'est un peu la même chose qui se passe pour l'automobile. On va changer de modèle en matière de mobilité et donc les discussions que nous avons aujourd'hui sur la façon dont la ville est organisée sont des moments de transition. Et toutes les transitions, c'est évidemment un petit peu compliqué, ça doit se caler et on peut comprendre que les gens soient dans une certaine forme d'incertitude. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de faire beaucoup de pédagogie.
Oui, Simon Vidal, vous pensez évidemment qu'il va y avoir cette évolution. C'est une prise de conscience aussi de la population, y compris des automobilistes, quoi. Parce que c'est vrai qu'il voit que ça coûte cher, quoi, l'essence,
tout à fait.
Le parking,
non, mais c'est très clair. C'est très clair. Le gouffre financier, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais je voudrais simplement répondre que ce n'est pas une concertation, c'est une obligation. C'est-à-dire que la mairie de Paris met pour Paris, puisque moi je suis surtout en Île-de-France. Donc la mairie de Paris met pour Paris effectivement les moyens nécessaires pour dissuader au maximum la limitation de vitesse sur le périphérique qui va passer probablement à 70, puisque toutes les parties ont les possibilités et les moyens. Et puis, je rappellerai aux auditeurs que 70, c'est en temps normal, parce que s'il y a de la pollution, ça sera 50. Et on va arriver à 50 relativement souvent. Donc, tout ceci fait
donc,
que...
Donc, il y a de la pollution. Et elle vient pas de n'importe où. Hein,
la pollution, la pollution c'est pas seulement les voitures, vous savez comment.
Ça fluidifie la circulation.
On va pas rentrer dans ce débat, monsieur Baupin, on va pas rentrer dans le débat de la pollution aujourd'hui. C'est un autre débat. On a eu d'ailleurs une table ronde là-dessus. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien comprendre qu'il faut être aujourd'hui non pas systématiquement dans le cadre de la répression, mais qu'il faut également être dans le cadre de la communication. Alors, pédagogie, mais vous obligez actuellement. Il n'y a pas de préparation, il y a une obligation.
On oblige à quoi
vous obligez systématiquement.
Allez, il reste, c'est terminé. Denis Baupin, une réponse.
Non, mais ça va entrer en
application. Vous obligez, de par vos modifie. Obligations de limitation de vitesse, de par les obligations que nous avons évoquées pendant toute cette émission, vous obligez l'automobiliste à agir d'une certaine façon.
Soyons clairs, les élus ont été élus par des citoyens auxquels ces programmes sont proposés. Nous avons été élus à Paris sur un programme de réduction de la circulation automobile.
Voilà, c'est terminé. Le temps est terminé, effectivement. Merci. Merci pour ce débat à tous les quatre. L'entrée en application du projet est prévue dans les mois qui viennent.
Dans deux, il y a un délai de 18 mois pour le moment, mais qui va certainement passer à 2 ans.
Merci. Dans un instant, le journal de la mi-journée.